Et oui, vous êtes bien sur les ondes de choc.ca. Marie-Ève au micro pour vous souhaiter la bienvenue à cette édition du 18 novembre 2021. On est toujours en 2021. Des apatrides anonymes. L'avant-garde des actualités internationales en lien avec les questions relatives à l'immigration. Je dis avant-garde parce que vous avez dû voir que la crise migratoire entre l'Union européenne et la Biélorussie fait depuis quelques jours l'objet d'une large couverture là, par les grands médias, surtout en fait depuis que la Russie et quelques puissances occidentales, aujourd'hui le G7, là, ont décidé de s'en mêler. Bien, rappelez-vous hein, que les apatrides anonymes, on vous en parlait pour la première fois il y a de cela plus qu'un mois.
Mm-hmm, au mois de septembre.
Oui, voilà. Donc, trêve de tape dans le dos quand même. Aujourd'hui, on va poursuivre notre mission de traiter aussi d'autres sujets, de traiter de questions de racisme, de dérives sécuritaires. Et on va traiter d'abord avec Mathieu, qui est avec moi en studio. Bonjour Mathieu.
Bonsoir Marie-Ève.
On va traiter d'enjeux autochtones ici. Et plus tard aussi, tu vas nous partager quelques nouvelles d'Amérique latine.
Oui, des nouvelles politiques.
Ben oui, c'est sûr. Ça me surprend pas de toi.
Oh non, c'est pas économique aujourd'hui.
Non. Et puis avec Simon qui est à la régie, on va se tourner vers les États-Unis. Et on va aussi... Bonjour, Simon.
Salut, Marie-Ève. Des procès, surtout aux États-Unis.
Oui, c'est ça. C'est comme l'actualité judiciaire des États-Unis. On va aussi parler des liens entre crise climatique, frontières et sécurité.
Exactement.
Puis quant à moi, je vais vous donner des nouvelles fraîches en provenance des quatre coins de la planète. Et, mesdames et messieurs, et Yel... qui a fait son entrée dans le Robert aujourd'hui. Ce sera le retour tant attendu de la Minute coloniale.
Oui, à la demande générale.
Alors voilà, on se retrouve après ce petit pont musical tout court. On le sait, les peuples autochtones sont à l'avant-plan des luttes environnementales depuis toujours et peu importe où on se trouve sur la planète. Eh bien, quelques jours avant l'ouverture de la COP26 à Glasgow, des Autochtones des îles isolées du nord de l'Australie ont déposé un recours en justice pour tenter d'obliger le gouvernement à protéger leurs terres contre la hausse du niveau de la mer en réduisant davantage ses émissions de carbone. C'est la première fois en fait qu'une telle action en justice liée au réchauffement climatique est par des Autochtones australiens. Et ces insulaires-là du détroit de Torres soutiennent que si rien n'est fait, ils vont devenir des réfugiés climatiques. Mm-hmm. Je pense que c'est un terme qu'on va entendre de plus en plus souvent. Il y a environ 5000 personnes qui habitent les 274 îles australiennes du détroit de Torres qui séparent l'Australie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Plusieurs de ces îles-là sont faiblement élevées et devraient devenir inhabitables là, si la température moyenne mondiale augmente de plus de 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui s'enligne avec les résultats de la COP26 pour être le cas. Le GIEC, lui, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, estime que cette hausse-là pourrait survenir d'ici 2030. Alors que le gouvernement australien, lui, a annoncé qu'il visait sa neutralité carbone en 2050, mais sans fournir encore là de détails sur la façon dont il comptait y parvenir et en renouvelant aussi son soutien plutôt appuyé aux industries minières et gazières.
Oui, puis ils ont décidé que le charbon allait continuer à prospérer au moins jusqu'en 2050.
Ben c'est ça. Donc, c'est rien pour diminuer justement les émissions carbone. Et parlant d'industrie gazière, on vous en a souvent parlé de la lutte du peuple Wet'suwet'en en Colombie-Britannique ici contre la construction sur leur territoire ancestral d'un pipeline de gaz naturel par Coastal GasLink, une compagnie qui appartient à TransCanada Energy. En 2020, il y a plusieurs clans du peuple Wet'suwet'en qui avait établi des checkpoints un peu partout sur le territoire pour bloquer le passage des véhicules de CGL. Mais là, ces mêmes clans appellent à un nouveau Shutdown Canada 2021 parce que les efforts de CGL ont repris de plus belle, toujours avec l'appui de la GRC qui a démantelé déjà plusieurs camps et checkpoints pour permettre à CGL de poursuivre ses travaux. C'est pourquoi la convergence des luttes anticapitalistes de Montréal, la CLAC, organise une manifestation de solidarité à Montréal le 27 novembre prochain à 14h. Le départ se fera au coin des rues Dorchester et Green, métro à Twitter. C'est donc un rendez-vous. J'imagine que Mathieu, tu y seras, étant donné
ton intérêt
et ta sensibilité aux questions autochtones d'ici.
Bien sûr, bien sûr. Et pour que les gens se rappellent très bien, en février 2020, janvier-février, il y a eu beaucoup de blocages de voies ferrées au Canada.
Ouais.
C'était à l'appel des Wet'suwet'en. Donc,
c'est ça, du premier
shutdown.
Fait
qu'il y en a un deuxième de calé actuellement. Écoute, tu me passes la poque, j'imagine, pour...
Yes,
d'ailleurs, je vais parler de la Colombie-Britannique dans quelques instants. Auparavant, une nouvelle qui est passée complètement inaperçue, fin octobre, début novembre. C'est assez inquiétant, mais assez révélateur. Un niveau d'insécurité alimentaire déplorable, une alimentation traditionnelle pas toujours accessible et des contaminants qui prédisposent les Premières Nations à des maladies. Voici les conclusions d'une vaste étude menée sur 10 ans à travers tout le Canada. L'Assemblée des Premières Nations a commandé cette étude portant sur 92 nations à travers le pays. Un exercice important pour faire le point sur l'alimentation des Premières Nations, puisque ceux qui vivent en communauté ne sont jamais sondés et sont généralement exclus des études sur la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire. Donc, les chercheurs ont interrogé des personnes, collecté des cheveux pour faire des analyses, prélevé de l'eau de surface pour voir s'il y avait la présence de mercure ou encore étudié les aliments traditionnels issus de la pêche, de la chasse et de la cueillette. 48% des Premières Nations vivent une insécurité alimentaire contre 12% de la population canadienne générale.
C'est énorme. Énorme comme différence.
Selon cette étude-là, qui est assez vaste, et quand on
qui s'est étalé aussi sur 10 ans quand
sur
même.
Sur 10 ans dans différentes régions du Canada.
C'est ça.
Et quand on parle de discrimination systémique, c'est un bon exemple. Quelques observations résultats de la recherche. 25% des répondants ne boivent pas l'eau du robinet à cause du goût ou de la couleur. La prévalence de l'obésité et du diabète est deux fois plus importante qu'ailleurs au Canada. Et l'utilisation de munitions au plomb mène à de très hauts taux de plomb dans le gibier chassé. Donc, ça, c'est quelques résultats de cette étude. Je vous invite à aller consulter ça. C'est avec l'Université de Montréal, entre autres, que ça a été fait.
OK.
Sinon, Opitchiwan, Marie-Ève, devient la 4e communauté autochtone au Canada à s'affranchir officiellement du fédéral grâce à la loi C-92. Opitchiwan devient la première communauté au Québec, donc la 4e au Canada, la première au Québec, à créer son propre système de protection de l'enfance.
C'est où, Opitchiwan?
C'est en Mauricie, c'est une des communautés Atikamekw.
Près de la TUC, quoi?
Près de la TUC, okay. Exactement, oui, oui. En adoptant la loi de la protection sociale Atikamekw d'Opitchiwan, la communauté va être totalement autonome en matière de protection de l'enfance. Depuis des décennies, les Premières Nations se sont vues imposer une loi beaucoup trop rigide, voire rétrograde, qui ne prend pas en compte les particularités culturelles et socio-économiques des nations. Un système inadapté qui est responsable d'avoir retiré un grand nombre d'enfants loin de leur famille et leur communauté.
Ben
ça,
ouais,
on en a parlé.
Sait, hein?
Il y a même une fameuse entente, un fameux jugement de la Cour qui est toujours pas accepté par le fédéral de compensation. Depuis en entrée en vigueur de la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis en janvier 2020, les communautés autochtones du Canada peuvent être maîtres de leur destin en ce qui concerne la protection de la jeunesse. Une période de transition dans le cas de Opitchiwan est prévue avant l'entrée en vigueur de la loi le 17 janvier 2022 pour entre autres transférer les dossiers qui viennent de la DPJ. En même temps, les énergies sont mises dans les prochains mois dans des discussions sur le rapatriement de ces fameux dossiers judiciarisés, puisque le gouvernement de la CAQ conteste la loi C-92 devant les tribunaux actuellement.
Ouais.
Il estime qu'elle empiète sur ses champs de compétences. Les Premières Nations ont à plusieurs reprises sommé Québec de cesser de contester devant les tribunaux la loi fédérale. Opitchiwan privilégie la discussion et la collaboration avec Québec, même si, a rappelé le chef Jean-Claude McQuish, le gouvernement québécois n'a pas semblé aller dans ce sens tout au long de l'écriture de la nouvelle loi des Atikamekw. Ils ont été invités et ils ont été absents tout le long. La Cour d'appel du Québec est actuellement saisie de la question de la constitutionnalité de la loi C-92. L'affaire est actuellement en délibéré. Mais la loi est présumée constitutionnelle, alors le gouvernement du Québec entend collaborer avec les communautés pour éviter les bris de services aux jeunes, a précisé le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, puis en terminant, les Atikamekw de Manawan, Wimotachi et de la TUC ont déjà développé depuis 2018 leur propre système de protection de la jeunesse grâce à une entente avec la DPJ, mais c'était pas officiellement autonome.
Moi, non, c'était pas un truc parallèle, tu sais.
C'est comme un projet pilote, en fond.
Ouais,
puis au Canada, la Première Nation Louis Boule en Alberta, la communauté Cree et Soto de Cowessess en Saskatchewan, Cowessess et les nations indépendantes de Wabeseemong en Ontario se sont déjà prévalues de la loi fédérale et 15 communautés du Québec ont aussi indiqué à Ottawa leur intention d'exercer leurs compétences et 22 communautés inuites ont l'intention de faire la même chose. Donc ça va faire boule de neige dans les prochaines
prochains mois. Je me demandais, est-ce que tu sais au niveau du personnel par exemple, tu sais qui va traiter ces dossiers-là, est-ce que ce sera du personnel autochtone? Est-ce que
Oui, justement, bonne question. Actuellement, il y a la commission de la santé la commission de la santé des services sociaux de l'Assemblée des Premières Nations du Québec qui offre des formations en collaboration entre autres avec le Cégep de Chicoutimi. Donc, il y a des collaborations pour que des Atikameks et des autochtones d'autres communautés soient formés
en travail social, intervention
Pour pouvoir prendre la relève dans ce cas-là. Donc, c'est tout prévu. Là, c'est pas de juste lancer comme ça.
Ouais, non, c'est ça parce qu'à un moment donné. C'est bien beau de rapatrier des pouvoirs, mais faut
donner
quand
service,
même.
Là, c'est sûr. Puis, Colombie-Britannique, c'est ma dernière nouvelle. C'est des questions de territoire. La Première Nation, Jitxala, lance une contestation judiciaire contre la province pour l'usage d'un registre en ligne qui accorde automatiquement des droits miniers sur son territoire. La Première Nation argue que le processus n'impose pas de consultation auprès d'elle, ce qui est contraire aux exigences constitutionnelles et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le fait que la Colombie-Britannique offre encore des concessions minières en ignorant les nations autochtones est un vestige colonial dommageable qui n'a pas sa place à l'heure actuelle, soutient le chef héréditaire Matthew Hill. La requête réclame l'annulation de sept concessions minières sur l'île Banks, au sud de Prince Rupert, ainsi que la suspension des droits miniers en territoire Jitxala. Trop longtemps, n'importe qui, avec un ordinateur et 34$, était capable de tenir des droits miniers sur un territoire.
C'est encore possible.
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par la province en 2019, exige que les gouvernements obtiennent un consentement libre et informé avant de mener des activités en territoire autochtone. La nation Jitxala n'a jamais cédé ses titres autochtones et ses droits sur l'île Banks. La requête nomme aussi trois particuliers et une entreprise à titre d'intimé. L'un de ceux-là affirme que si un prospecteur devait informer une Première Nation qu'il revendique un droit minier, cela causerait des problèmes à l'industrie.
Ben oui, tu m'étonnes, c'est un peu pour ça que ça existe.
Moi, je dis rien, c'est juste trop gros des fois, certaines affirmations.
Non, mais attends, la suivante est assez révélatrice, mais ce n'est pas la façon dont l'industrie fonctionne, et si ça devait arriver, on devait y arriver, je pense que l'industrie minière serait ruinée. Hein? Un élan de lucidité. Donc, et je voulais finir en Colombie-Britannique avec Ferry Creek, l'effet de Ferry Creek, tiens donc. La Colombie-Britannique veut suspendre pour 2 ans l'exploitation de 2,6 millions d'hectares de ses forêts anciennes. Je cite Joshua Wright, porte-parole du groupe écologiste Rainforest Flying Squad, qui mène le mouvement depuis plusieurs mois dont on a beaucoup parlé ici. C'est quelques bonnes étapes, mais nous ne voyons pas la vision complète aujourd'hui. La mesure ne touche qu'environ le tiers des forêts anciennes à risque en Colombie-Britannique. Et on rappelle que l'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique réclame déjà un moratoire sur la coupe des forêts anciennes pour l'ensemble de la province. Mmh. On parle de presque 10 millions d'hectares. Mais ça bouge quand même à cause du mouvement de contestation qu'il y a depuis des mois à Ferry Creek. Mais à la Colombie-Britannique, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Hein?
Ouais, ben il y a quand même aussi là sur les coupes forestières, mais ça on pourra en parler peut-être une prochaine.
Oui, dans la Naudière, ça j'en ai pas parlé parce que c'était déjà un dossier en soi, mais on pourra en parler dans les prochaines semaines.
C'est ça. Ouais. Ben merci Mathieu.
Ben merci.
Et puis sur ce, on s'en va vers ce que vous attendiez tous et toutes.
On va scraper complètement tout ce que Mathieu vient de nous dire, en fait, avec la minute coloniale, qui a des liens quand même assez forts avec la thématique des Premières Nations.
Les Apatrides Anonymes vous présentent la Minute Coloniale. La vénérable compagnie de l'abbé d'Hudson n'est pas que jolie parure, suave parfum et cette fameuse couverture à rayures dont on raffole. Il s'agit d'abord d'un des socles sur lesquels s'est bâti notre grand dominion. Fondée en 1670, elle est la plus ancienne personne morale d'Amérique du Nord, et grâce aux tribus locales qu'elle traitait en égales, elle a étendu son vaste réseau vers l'ouest et le nord de ce qui allait devenir le Canada. Telle une grande défricheuse de territoires vierges et hostiles, semant sur son passage progrès et civilisation. Ces modestes postes de traite de la fourrure sont devenus des magasins généraux où les Indiens d'Amérique venaient se ravitailler en morceaux de miroir et en alcool fort, et ces agents étaient de facto les représentants du bel et grand ordre britannique dans les communautés éloignées. L'entreprise est responsable d'avoir introduit plusieurs virus comme la rougeole et la variole dans les communautés aborigènes. Mais on ne fonde pas un pays sans casser des œufs, et il s'est toujours fait un devoir de démontrer toute son humanité. Par exemple, en 2017, succombant aux sirènes woke, une plaque commémorative de l'ancien président sudiste confédéré Jefferson Davis a été retirée de l'édifice de la baie au centre-ville de Montréal dans un louable souci d'exprimer son indéfectible attachement aux valeurs de compassion et d'entraide. Attachement que la compagnie a bien essayé de démontrer à nouveau en 2021 en vendant des gabinets Orange Every Child Matters, geste qui a été perçu comme indécent par certains influenceurs de la diaspora aborigène, qui n'hésitent pas à qualifier la compagnie de la baie d'Hudson d'entreprise coloniale, comme si tout ce qui était colonial était forcément mauvais. C'était la Minute Coloniale, présentée par les Apatrides Anonymes.
Ah, la baie d'Hudson, ce fleuron du colonialisme canadien!
Ah, je croyais que c'était le dernier jésuite, mais on en a une jésuite en studio aussi.
Une relique religieuse!
De la conquête, je sais pas.
Mais écoute, encore une fois, Simon, tu fais le tour assez vite, t'es efficace dans tes minutes coloniales.
Oui, oui, j'ai résumé à peu près 250 ans d'histoire. Non, plus que ça, 300, 400
ans. Ben oui,
400
ans, oui.
Mais en tout cas, je préfère quand même prendre le micro après les minutes, question de nous éviter des poursuites ou des plaintes. Dans le cas de la baie d'Hudson, ou ben la baie, tout simplement, on n'est pas juste dans un contexte d'une entreprise vaguement coloniale. Là, on est vraiment... on est avant la conquête de 1760, avant le Canadien Pacifique. La baie, c'est vraiment le précurseur de la colonisation d'une vaste majorité de tout le territoire canadien et même du territoire américain, du nord du territoire américain actuel. Territoire qui appartenait à la compagnie de la baie d'Hudson en vertu de décrets royaux. Elle avait le monopole non seulement sur les fourrures, la chasse, mais à peu près toutes les ressources possibles, sur la pêche aussi. La compagnie avait des pouvoirs semblables à ceux d'un gouvernement sur un territoire qu'on appelait la Terre de Rupert. Une petite leçon d'histoire ici.
Ben oui.
C'est le principal propagateur de l'expansion coloniale du Canada, directement impliqué dans le génocide autochtone et même un des instigateurs du génocide autochtone. Les mercenaires de la compagnie étaient souvent les premiers Européens à entrer en contact avec les communautés autochtones. Les premiers à explorer le territoire européen, là, on s'entend,
oui, oui.
À le cartographier, à en prendre possession au nom de la couronne, à mettre au pas les communautés, les contraindre souvent par la violence à participer à leur commerce, donc en déstructurant les communautés, bouleversant les modes de vie et de survie traditionnels. Les trappeurs, c'était, je pense qu'on peut dire, c'était 100% des personnes autochtones. Main-d'œuvre très cheap, proche de l'esclavage, conditions de travail, salaire ridicule. On mettait les différentes communautés en compétition entre elles en les rendant dépendantes de l'industrie du trappage et bien, toutes les industries connexes qui tournaient autour. En 1870, donc à peu près 200 ans après l'octroi du territoire par la couronne britannique à la compagnie de la baie d'Hudson, elle a vendu son territoire au relativement nouveau gouvernement canadien pour 300 000 livres sans que les communautés autochtones touchent une seule scène. Donc, rien du tout. Donc, ils étaient propriétaires, point. Même dans l'histoire plus récente, on sait que la baie a joué un rôle dans le déplacement des Inuits du Nord québécois vers le Nunavut, là, à travers des programmes de délocalisation forcée. Beaucoup d'Autochtones, avec tout ça et bien d'autres choses que je passe, parce qu'on n'a pas toute l'émission là-dessus, là, mais perçoivent la plupart des Autochtones, la compagnie de la baie d'Hudson, comme celle qui a apporté la misère, la violence, les dépendances dans leur communauté. Donc, quand la baie a commencé à vendre les petits T-shirts Every Child Matters, qui rend hommage aux enfants tués dans les pensionnats, disons qu'il y a eu quelques grincements dedans et on peut comprendre pourquoi.
Tout à fait, oui. Non, c'était... disons... pour être poli, c'était plutôt maladroit. Peut-être que ça se voulait d'une bonne volonté,
ils sont
mais très maladroit.
Quand même, après, en disant, oui, on va remettre des fonds à certaines fondations.
Oui, c'est cela, oui.
C'est cela.
Ben, merci encore, Simon.
Ça fait plaisir.
Et sur ce, on s'en va en musique avec... Je vous donnerai plus d'informations tout à l'heure après la pièce, mais avec Anacnid et la pièce Live Alone.
I've been messy watching TV, smoke house, then jump in my couch. Voice grows deeper as lungs get darker. Wear heels for breakfast and eat candy for dinner. Still wish I was a little bit thinner. Still wish I was a really good singer. I
Vous écoutez toujours les Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca. On vient d'entendre l'artiste Oji Cree Anaknid avec sa toute nouvelle pièce Level On, qui est disponible depuis le 15 octobre. C'est la deuxième fois qu'on vous l'a fait jouer, cet artiste multidisciplinaire qui vit à Montréal. Cette fois-ci, c'est pour souligner son Félix, le Félix artiste autochtone de l'année pour son album Dreamweaver, dont était issue la pièce qu'on vous avait fait jouer plus tôt dans l'année à l'émission. Et donc Dreamweaver qui était paru en février 2020. Alors, félicitations à Anaknid et on
c'est
attend
très bon.
Avec impatience son prochain album. Effectivement, c'est très bon. Elle a une voix absolument magnifique. Alors, avant de te céder le micro, Simon, pour les actualités états-uniennes, petite nouvelle du front de l'extrême droite bien de chez nous. Facebook a enfin mis ses culottes et a banni le groupe néo-nazi Atalante Québec.
Yeah! Yeah! Ils vont se ramasser sur le Facebook russe.
Oui, probablement, oui. Ou biélorusse, c'est ancien, en tout cas, je sais pas. Même si la page d'Atalante Québec était déjà plus disponible depuis le mois d'août, le groupe, là, est vraiment officiellement désigné comme une organisation dangereuse. Concrètement, en fait, ce que ça veut dire, c'est que tout soutien, éloge, représentation ou même référence, sauf pour condamner le groupe, va être automatiquement retiré de la plateforme. Et tout lien vers le contenu d'Atalante Québec sera aussi supprimé par Facebook. Selon une porte-parole du réseau social, c'est principalement le partage d'imagerie nazie sur la plateforme qui serait à l'origine là, du bannissement du groupe identitaire. Plus particulièrement, une photo d'un des membres du groupe nazi avec l'inscription « Arbeit macht frei », le travail c'est la liberté, tatoué sur l'avant-bras. C'est subtil, n'est-ce pas?
Référence à Auschwitz.
Et voilà. Et donc, apparemment qu'il y aurait 4000 autres pages qui seraient également en processus de vérification là, par Facebook, Meta, partout dans le monde. Alors, voilà. Et toi, Simon, aux États-Unis...
Ben,
la justice.
Oui, c'est ça. Je vais vous parler de procès qui sont en cours actuellement. Pas nécessairement de néo-nazis affirmés officiellement, mais on est dans le même registre, là, je dirais. On commence par le procès de Kyle Rittenhouse, que ça, c'est très dans l'actualité actuellement. Là, le gars de 18 ans qui a assassiné en pleine rue deux manifestants Black Lives Matter et blessé un troisième à Kenosha, Wisconsin. Des manifestations qui faisaient suite à l'assassinat par la police de Jacob Blake, un homme noir de 29 ans. Rittenhouse est considéré comme un héros parmi l'extrême droite, donc peut-être parmi Atalante aussi. Il y a même des supporters qui ont payé sa caution de 2 millions, donc il est considéré toujours comme en liberté à cause de ce paiement de 2 millions de dollars US. Il plaide la légitime défense, ce qui va peut-être fonctionner parce que ça se passe devant jury et la défense fait tout pour reprendre le discours un peu trumpiste là, selon lequel il y a des gens violents des deux côtés. And there are good people among each other. En tout cas, bref.
Ouais, ouais.
Que les antifas, c'est des méchants puis qu'ils menaçaient. Le fait est quand même, t'as un ado, je sais pas si on peut dire suprémaciste ou QAnoniste, là, je sais pas exactement de quelle école il se revendique, il est lourdement armé, il se rend dans une manif antiraciste de son plein gré, paradé de façon ostentatoire avec un fusil d'assaut AR-15, c'est très très visible, c'est très menaçant comme truc, c'est une arme semi-automatique, là, c'est une machine à tuer. Me semble que c'est assez clair comme situation. Je sais pas qui faisait peur à qui exactement.
Ben, moi, ça me semble assez clair qui faisait peur à qui.
Ben, forcément, tu sais. Puis en tout cas, bref, pendant le procès, il a fait des petites séances de pleurnichage. On a tous vu sa face aux nouvelles, toute défaite avec des petites larmes. Là. Il a dit qu'il s'était senti menacé, qu'il avait pas l'intention de tuer. Ben non. En tout cas, il a même déclaré que son plan initial, c'était d'aller fournir des premiers secours. Donc,
à coup de...
premiers secours extrêmes.
Oui,
peu,
c'est
donc.
Ça.
Le verdict, et j'aurais aimé ça l'avoir aujourd'hui, c'était la troisième journée de délibération du jury aujourd'hui. Ils ont terminé la journée en ne rendant pas de verdict, donc ça se poursuit demain. Peut-être un verdict demain, on verra ce que la justice...
On vous fera un petit suivi là-dessus à la prochaine
C'est ça,
émission.
Dans deux semaines, on présume que le verdict va être tombé. Une autre affaire qui, elle, a failli jamais être connue, les autorités locales avaient tout fait pour l'étouffer, une affaire très connue aussi, je parle du cas de Ahmaud Arbery, 25 ans, en train de faire du jogging, on s'en rappelle bien, là, grâce aux vidéos où on le voit se faire assassiner carrément. C'était à Brunswick, Georgie. Les trois hommes blancs l'avaient tué sur la base de leurs préjugés racistes en pleine rue et en plein jour dans ce cas-ci. Ahmad Arbery était entré quelques minutes sur le chantier d'une maison. Donc ça, c'est sa grosse faute. Probablement juste par curiosité, parce qu'il n'y avait rien qui avait été volé ou endommagé. Donc la défense joue beaucoup sur cet élément-là en disant que les trois hommes, les trois assassins croyaient avoir affaire à un voleur, donc autorisé à le tuer. Dans le cadre de ce qu'on appelle aux États-Unis des arrestations citoyennes. Ça, c'est vraiment dans la culture américaine, là, de self-defense, des vigiles armés civils qui surveillent les quartiers, phénomène qu'on connaît pas trop, heureusement, au Québec.
Pas à cette échelle-là,
effectivement. Mais aux États-Unis, en plus des services officiels de police qui sont quand même assez présents puis qui sont une menace surtout pour les hommes noirs assez souvent, aussitôt qu'ils font un petit quelque chose qui dépasse, là, ben, tout de suite, ils sont en danger parce que cette culture de surveillance, de voisinage est très développée partout, très présente dans les quartiers de classe moyenne et élevée à majorité blanche, évidemment. Donc, voilà pour eux aussi, ça vient de commencer, ça se passe devant jury, c'est en cours actuellement. La défense essaie un peu la même stratégie comme celle de Kyle Rittenhouse. Donc, ils plaident non coupables et ils vont essayer de démontrer que c'est eux les victimes, qu'ils ont eu peur de ce jeune jogger non armé et que pour leur sécurité, c'était mieux de...
Hey, c'est sûr qu'une personne noire en pantalon de jogging et en t-shirt, ça fait peur. Hein?
Oui, puis qu'un rythme, tu sais, que ses écouteurs.
Mais non, mais c'est ça. Là.
Donc, la suite, on n'a pas encore de verdict non plus. Ça va peut-être être plus long. Puis c'est toute la culture des armes à feu qui est un peu mise en cause dans tout ça aussi. Dernière nouvelle états-unienne, peut-être un peu moins directement judiciaire, celle-là en lien avec le procès de Derek Chauvin, l'assassin de George Floyd, qui porte en appel sa condamnation à 20 ans de prison. C'est actuellement... c'est pas actuellement... Je pense qu'ils sont en train de choisir un nouveau jury pour ça. À Minneapolis, il y avait un projet de réforme de la police, un projet de defunding assez classique, c'est-à-dire retirer une petite partie du financement de la police pour le rediriger vers des ressources en éducation ou dans le communautaire ou le psychosocial. Ça a été soumis à un vote référendaire et ça n'a pas passé. Ça a voté contre à 56%. Il faut dire qu'il y a eu une, qu'on connaît les médias un peu aux États-Unis, il y a eu une campagne de désinformation assez spectaculaire, un peu à la Coderre, là, du genre, ils vont enlever les guns à la police, il n'y aura plus de police. Les gangs de rue vont tout contrôler. J'ai lu des articles de droite qui disaient, qui reprenaient carrément ce discours-là. Inversement, il y a beaucoup d'analystes aussi qui disaient que le projet de réforme de la police de Minneapolis n'était pas très bien ficelé non plus. Ça manquait de détails, de chiffres, à savoir combien de millions seraient redirigés puis vers quelles ressources exactement. Donc, les gens ne savaient peut-être pas non plus exactement. Il y aurait eu peut-être du chemin à faire de l'autre côté aussi pour mieux...
De présenter un plan plus concret, oui.
Exactement. Donc, pour l'instant, ben, statu quo à Minneapolis. Il y aura d'autres projets de réforme de la police qui seront présentés dans les prochaines années avec, on l'espère, des meilleures campagnes de sensibilisation. Si on regarde d'autres villes sur cette question-là, New York a retiré 1 milliard à la police, mais c'est dans le cadre d'un plan de réduction budgétaire qui touche à peu près tous les services, dont le communautaire. Mm. Donc, c'est kiff-kiff, ça revient au même. Le nouveau maire, Eric Adams, est noir, mais est aussi un ancien policier et il s'oppose au financement. Il y a eu plusieurs élections municipales aux États-Unis récemment avec la question de la police qui a été quand même assez centrale à Austin, Seattle, Cleveland. Il y avait des projets de définancement et ça vaudra peut-être la peine dans les prochaines semaines de faire un topo plus complet sur cette question-là.
Effectivement, oui. Parce que ça fait un bout de temps, tu sais, on vous en a fait un peu là, de façon sporadique, là, mm-hmm. mais effectivement, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé.
Il y a eu des projets pilotes à Toronto, entre autres. À Montréal, on en a parlé, ça ne s'est pas rendu très, très loin.
Non, mais tellement,
c'est,
non.
C'est une question quand même assez fondamentale.
Merci encore, Simon.
Merci, merci.
Quelques petites notes de musique et on vous revient. We'll be right back. négligé à l'émission, mea culpa, c'est la crise humanitaire qui frappe Haïti depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet et depuis aussi le tremblement de terre du 14 août qui a fait plus de 2000 morts. Ce sont des événements qui ont forcé des milliers d'Haïtiens et Haïtiennes à suivre le pays et dont plusieurs se sont retrouvés coincés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ça a été quand même largement couvert aussi par les grands médias. Mais dans ce contexte-là, il y a la concertation haïtienne pour les migrants qui a adressé plusieurs demandes à Sean Fraser, le nouveau ministre fédéral de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. Quelques demandes, dont la suspension immédiate de tout renvoi d'Haïtiens et Haïtiennes qui arriveraient comme migrantes à la frontière. Le regroupement réclame aussi la régularisation du statut de celles et ceux qui vivent déjà au Canada sans papier et sans permis de travail. Il demande aussi la réunification des familles et la prise en charge des Haïtiens et Haïtiennes coincés à la frontière des États-Unis et du Mexique. Et finalement, il presse le gouvernement fédéral d'accélérer le traitement des dossiers des personnes déjà acceptées comme résidentes permanentes, mais qui attendent depuis plus de 2 ans leur visa. Il y a Marjorie Villefranche, qui est directrice générale de la Maison d'Haïti à Montréal, qui, elle, reproche au gouvernement fédéral la tiédeur de sa réaction, particulièrement par rapport aux personnes qui sont coincées à la frontière États-Unis-Mexique. Je la cite. « Est-ce possible de voir tous ces gens sous les ponts en train de vivre des situations extrêmement difficiles et il n'y a pas eu un seul pays qui a levé le petit doigt pour dire « Je vais en accueillir quelques-uns. » Donc, le ministère de l'Immigration, lui, de son côté, s'est borné à se dire préoccupé par la situation et a seulement rappelé les programmes existants.
Non, les Donc, Haïtiens, là, ils sont pas bienvenus à grand endroit. Hein? C'est
non,
quelque chose.
Ça va pas. Non, c'est assez déplorable. Ouais. Mathieu, de retour en studio.
Oui.
Cette fois-ci, donc, pour parler d'Amérique latine.
Oui, d'Amérique centrale et latine. Ouais. Ben, politique dans le sens qu'il y a des élections, il y a des changements de gouvernement ou pas. Donc, je voulais faire. C'est des élections ou des démarches politiques qu'on n'entend pas tant parler. Nicaragua, il y a eu des élections il y a une dizaine de jours. Notre ami Daniel Ortega a été réélu pour un 4e mandat de 5 ans. Des élections qualifiées de comédie par Washington, puisque tous les rivaux sérieux du chef de l'État ont été placés en détention dans les mois précédant les élections.
C'est subtil.
C'est assez efficace, hein? Il se présente à 76 ans comme président avec son épouse Rosario Murillo, 70 ans, qui elle est vice-présidente depuis 2017. Donc, c'est un couple là, qui... C'est un vrai couple. Un ticket, comme ils disent en France, là, un vrai couple. Le président Ortega a accusé ses opposants d'être des démons qui choisissent la violence, le dénigrement, la calomnie pour que le Nicaragua soit de nouveau en proie à des affrontements violents. Les candidats arrêtés conspiraient. Ils ne voulaient pas que ces élections aient lieu car ils ont depuis longtemps vendu leur âme à l'Empire américain et vivent à genoux réclamant les agressions contre le Nicaragua. Bon, il est un peu caricatural, Ortega. Il y a des choses vraies là-dedans, là, mais disons que c'est un peu... Les journalistes de plusieurs médias internationaux se sont vus interdire l'accès au territoire et le gouvernement a refusé la présence d'observateurs indépendants internationaux. Les opposants avaient un seul mot d'ordre pour les électeurs, rester à la maison, le fameux boycott qui marche pas en général. Les 5 candidats inscrits pour affronter le chef de l'État sont considérés comme des faire-valoir compromis avec le pouvoir. Faut dire qu'il y a un contexte particulier, parce que 3 ans après la répression qui a fait plus de 300 morts parmi les manifestants qui exigeaient au printemps 2018 la démission d'Ortega, la chasse aux opposants a fait rage, donc 39 personnalités politiques, hommes d'affaires, leaders étudiants, leaders paysans, journalistes ont été arrêtés depuis le mois de juin. Parmi eux, les 7 candidats potentiels de constituer une menace pour le président sortant.
C'est des démons.
Oui.
Des vols. Les opposants sont accusés d'atteinte à la souveraineté nationale, de soutenir les sanctions internationales contre le Nicaragua, parce qu'il y en a beaucoup, de trahison de la patrie ou de blanchiment d'argent en vertu de lois votées en fin 2020 après la répression. C'est quand même le plus petit pays d'Amérique latine avec 6,5 millions d'habitants, 6,5 millions d'habitants, le plus pauvre de la région et qui est en proie depuis les fameux troubles de 2018 à l'inflation, au chômage et il y a eu la pandémie qui s'est rajoutée, dont l'ampleur est niée par le pouvoir. Mm-hmm. Depuis les manifs et la répression de 2018, plus de 100 000 Nicaraguayens ont pris le chemin de l'exil, majoritairement au Costa Rica. Donc, l'ancien griot sandiniste de 75 ans qui avait contribué à renverser Somoza a obtenu 76% des voix. Les États-Unis et l'Union européenne avaient déjà imposé des sanctions depuis 2018 aux proches du chef de l'État. Et là, Joe Biden s'apprête maintenant à promulguer un arsenal de sanctions encore plus dur édicté par la loi Renacer, approuvée dernièrement par le Congrès américain, un peu comme les sanctions à Cuba, là, vraiment des sanctions ciblées, ce qui va vraiment aider la population nicaraguayenne.
Ben, c'est ce que j'allais, c'est exactement ce que j'allais dire.
Et Ortega évolue dans un environnement de plus en plus hostile, avec seulement la moitié du soutien populaire qu'il avait avant la répression de 2018. Il a même perdu le support du secteur privé et de l'Église catholique. C'est quand même quelque chose.
C'est peu dire.
C'est pas peu dire. Sinon, le Chili, Marie-Ève, il y a des élections en fin de semaine.
Oui.
Mais il y a beaucoup de choses au Chili, je vais en parler rapidement. Depuis juillet dernier, une assemblée constituante est chargée de rédiger une nouvelle constitution. On en avait parlé, puis les médias aussi. Cette assemblée a entamé vraiment récemment, le mi-octobre, les vrais débats sur la nature, le contenu de la future constitution.
Ouais.
Je rappelle que cette assemblée constituante est parfaitement paritaire et que des sièges sont réservés aux peuples autochtones, une première au Chili. Je cite un des membres de la constituante. La constitution d'aujourd'hui reste plutôt néolibérale, celle actuelle, et on s'attend à ce que la nouvelle soit plus proche d'un modèle social-démocrate avec un État plus fort, plus de droits sociaux, reconnaissance des droits des peuples autochtones, le droit au logement, qu'on n'a même pas ici, et puis probablement les droits de la nature et des animaux.
Il y a les tarifs en éducation aussi qui ont été un énorme enjeu dans les dernières années au Chili. Gratuité scolaire, je ne sais pas si ça en ferait partie.
C'est pas dans la constitution. Je pense pas que ce soit dans la constitution, mais le droit à l'éducation risque d'être là. J'ai pas pu avoir l'information, Simon. Le gouvernement actuel de droite n'a pas pour l'instant donné à l'Assemblée tout le budget qu'elle demande et les collaborateurs des élus n'ont pas été payés depuis 3 mois. Il faut dire qu'il y a 3 semaines, ça a brassé pas mal des pillages et des affrontements entre protestataires et forces de l'ordre à l'issue des manifestations organisées à Santiago pour le deuxième anniversaire de la contestation d'octobre 2019, dont on se rappelle, juste avant la pandémie, se sont soldés par 2 morts, 56 blessés et plus de 450 arrestations. Et à travers ça, le Parlement chilien a approuvé, la semaine passée, le lancement d'une procédure de destitution contre le président Sébastien Piñera relative aux révélations de l'enquête des Pandora Papers.
Ah, ben oui, c'est vrai.
Pour la vente controversée d'une compagnie minière réalisée dans un paradis fiscal, rien de moins. Piñera a démenti tout conflit d'intérêts dans la vente de la compagnie minière et clame sa totale innocence. Le président de droite, un des hommes les plus riches du Chili, estime qu'il y a déjà eu en 2017 une enquête approfondie et que l'affaire est close. La compagnie minière Minera Dominga a été vendue par Piñera à un homme d'affaires ami du chef de l'État pour 152 millions. Une transaction opérée aux îles Vierges britanniques. Le paiement de la transaction devait être effectué en 3 versements et contenait une clause controversée qui subordonnait le dernier paiement à la condition qu'une zone de protection environnementale ne soit pas établie sous le territoire de la mine, comme le demandaient les groupes écologistes. Et qu'est-ce que le gouvernement de M. Piñera a fait? Ils n'ont pas protégé la zone, puis il y a eu un troisième paiement. Fait que là, c'est une course contre la montre pour l'opposition, parce que les élections générales sont dimanche, fait que la procédure de destitution
est un peu moins 5 ans.
Et lui, pour se présenter, il a déjà fait 2 mandats. Fait que...
Est-ce qu'il était à la COP26 pour parler de tous ces beaux projets?
Je pense pas.
Écoute, Simon, je pense pas qu'il a fait le voyage. Je vais finir avec les élections. Le candidat d'extrême droite apparaît dans les médias chiliens comme l'un des 2 favoris de cette élection avec 16% des voix. Ancien parlementaire José Antonio Kast défend le modèle économique néolibéral hérité de la dictature. Il est anti-avortement, anti-mariage homosexuel et veut creuser un fossé à la frontière nord du Chili pour éviter l'arrivée de migrants latino-américains. Pour lui, le régime du général Pinochet n'était pas une dictature.
Mais non.
Et...
Mais il dit pas c'était quoi.
Non, c'est ça.
Non, c'était pas ça.
Non, je dis non. Il bénéficie en partie de la très mauvaise campagne du dauphin de Piñera, Sébastien Sichel, parce que avec ce que je viens de vous dire. En tête, à 21%, à gauche, c'est un jeune député, ancien leader étudiant, qui apparaît comme favori. Il s'appelle Gabriel Boric, 35 ans, barbu, tatoué. Il s'est fait connaître lors du grand mouvement pour la gratuité scolaire au Chili en 2011.
Il va ramener le sujet sur le tapis.
Oui, évidemment. Il représente la nouvelle gauche chilienne issue des mouvements sociaux avec un programme féministe écologiste, soutenu par le Parti communiste que certains aiment pas beaucoup. Donc, les élections, c'est dimanche et je vous juste souligner en terminant que depuis juin, la mairie de Santiago est dirigée par Iraci Asler, mère féministe à 30 ans, qui est la première mère communiste à diriger la capitale chilienne de l'histoire, parce que le Parti communiste au Chili est assez actif, surtout depuis 2019, depuis les grosses manifestations.
Ouais, c'est ça.
Il y a des anarchistes, il y a des sociodémocrates, il y a un paquet de monde, les syndicats, mais le Chili, c'est vraiment intéressant. Élection dimanche, donc est-ce qu'un jeune de 35 ans, style Gabriel Dadeau-Dubois, mais soutenu par les communistes, là, barbu et tatoué, va-t-il gagner contre le gars qui dit que le Pinochet, c'est un régime de licorne?
Oui, c'est ça. Eh bien, là-dessus, on va s'en aller dans le feu, hein, avec Fuck Tout. Apatrides anonymes, on met de la musique qui brasse. On vient d'écouter le groupe punk hardcore montréalais Fuck Tout avec la pièce Gelée sur le feu, tirée de leur plus récent album sorti en septembre et dont le titre ne manque pas d'humour, Coke Computer. Je vous laisse deviner la référence. Comme vous savez, en raison de la pandémie, depuis la fin mars 2020, les personnes migrantes qui passent par le chemin Roxham à Saint-Bernard-de-la-Colle sont renvoyées aux États-Unis. Eh bien, selon les informations de Radio-Canada, d'ici la fin du mois de novembre, le gouvernement fédéral devrait à nouveau y permettre le passage pour faire une demande d'asile. Ça avait été annoncé par décret, la fermeture du chemin Roxham, décret qui prend officiellement fin le 21 novembre et donc qui devrait pas être renouvelé. Le décret, bon, visait pas seulement le chemin Roxham, mais interdisait à toute personne étrangère d'entrer au Canada en provenance des États-Unis pour y faire une demande d'asile hors d'un poste frontalier. Évidemment, l'arrivée de personnes en situation irrégulière a jamais été complètement stoppée là au Québec. En moyenne, entre avril 2020 juin et juillet dernier, il y a un peu moins de 25 demandeurs d'asile qui ont été interceptés mensuellement par la GRC, contre environ 1 000 000 par mois avant la pandémie. Donc, il y a quand même une méchante différence. Mais selon l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, depuis cet été, il y a quand même de plus en plus de personnes qui arrivent au Québec. C'est comme s'il y avait de nouveaux chemins Roxham qui ont été repérés par des passeurs et des personnes migrantes. Officiellement, la GRC, elle affirme qu'il n'y a pas vraiment de recrudescence, mais les chiffres montrent le contraire. 11 personnes ont été interceptées au Québec en juin, 63 en août, et en septembre, c'était 150. On n'a pas eu encore les chiffres pour octobre. Et dans ce contexte-là, ben la fameuse entente des tiers pays sûrs fait juste alimenter le problème parce que tant que cette entente-là existe, les personnes qui veulent entrer au Canada par les États-Unis vont continuer de le faire par des voies non officielles. Et donc, pour citer l'avocat en immigration Stéphane Hanfield, j'ouvre les guillemets, qu'on ferme ou qu'on rouvre Roxham, on va continuer de vivre ce type de situation. C'est le résultat d'un problème qu'on dénonce depuis des années. Même si les autorités trouvent un nouveau passage et qu'on le ferme, ça recommencera. C'est la triste réalité. Alors, on verra ce qui arrivera d'ici la fin du mois. Mais toi aussi, Simon, tu nous parles de sécurisation des frontières, mais plus en lien avec la crise climatique, c'est ça?
Bien, j'essaie de mettre en relation mur et changement climatique. C'est pas toujours... En tout cas, je vais essayer de pas être trop théorique. Là. C'est pas un exercice qui est super facile.
Non.
On est au sortir, on en a parlé une couple de fois, de la COP26, plein d'engagements... certains qui seront pas respectés, puis sont déjà les objectifs, tout le monde est déçu, en fait. Tout le monde sait, l'une des conséquences majeures des dérèglements climatiques, c'est le phénomène des réfugiés climatiques. Puis cet aspect-là de la question a été carrément évacué des discussions, des différentes déclarations. Mais dans les médias aussi, quand on avait des comptes rendus de la COP26, on n'entendait pas trop parler de réfugiés climatiques.
Non.
En fait, dans l'accord final qui a été signé par les différents auteurs, il n'y a aucune mention des réfugiés climatiques. Le mot réfugié n'apparaît pas du tout.
Nulle part.
C'est ça. Donc, ça n'existe pas. On a beaucoup parlé. Ils doivent penser que ça les concerne pas, là, que c'est des questions intérieures. Je sais pas trop. On a parlé beaucoup d'énergie, de charbon. Le mot dit qu'on a parlé de charbon, puis de captation des énergies. Là. Ça, on en a beaucoup parlé. J'aurai des chiffres tantôt, si j'ai le temps, pour comparer les budgets frontaliers de certains pays par rapport à leur budget consacré à la protection du climat. Et c'est assez révélateur. Il y a quelques voix qui ont essayé de se faire entendre à Glasgow sur la question des réfugiés climatiques. Quelques petits organismes, quelques petits pays qui sont plus directement touchés, mais ce sont des petits pays ou des pays pauvres.
Pays insulaires, beaucoup, j'imagine.
Des pays côtiers, des pays insulaires. Mais tu sais, qui n'ont pas un poids économique important, donc ils ont à peu près pas de temps de parole, puis c'est pas à eux que les médias s'intéressent. Il y a le Haut Commissariat pour les réfugiés qui a produit une déclaration officielle dans le cadre de la COP26, mais avec aucun représentant sur place à Glasgow. Donc, c'est passé complètement dans le beurre. C'était comme mettre un communiqué en ligne.
Ouais.
Je vais quand même citer un extrait de la déclaration du Haut-Commissariat. Nous sommes préoccupés par le fait que la COP26 n'a pas pris d'engagement envers les réfugiés climatiques pour éviter des conséquences dévastatrices pour des millions de personnes déplacées et d'apatrides. Fin de la citation. Si je veux résumer grossièrement, c'est que oui, il y a de l'aide prévue pour les pays qui sont les plus affectés par les changements climatiques et où il y a des déplacements de personnes, effectivement, mais l'argent qui est prévu, c'est pour aider ces pays-là à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est un peu absurde étant donné que c'est pas nécessairement des grands émetteurs. Et il n'y a pas de mesure d'accompagnement spécifiquement dédiée aux personnes qui doivent se déplacer, soit en raison de l'érosion, de la sécheresse ou de catastrophes naturelles dont le nombre et l'intensité augmentent. C'est un peu fou, c'est vraiment une invisibilisation du phénomène des réfugiés climatiques dans des rendez-vous aussi importants que la COP26. Donc, il manque vraiment des morceaux à ces grandes ententes internationales. Tout ce qu'on peut mettre dans le giron de la justice climatique, là, il y a vraiment, vraiment du chemin à faire. Là, je vais être un peu éditorial, attention. Mais il y a aussi un genre d'éléphant dans la pièce qu'on n'ose pas nommer, c'est le capitalisme. Destruction de l'environnement et capitalisme sont intrinsèquement reliés. Tu sais, la recherche de profit, accumulation infinie de biens, de richesses, implique toujours plus d'exploitation sur une planète qui est limitée. Mais personne n'ose nommer le capitalisme. Donc, beaucoup de réponses qu'on donne sont des solutions dites vertes, mais qui vont permettre de perpétuer le système comme on le connaît. Exemple, les voitures électriques, tu sais, qui changent absolument pas nos modes de vie et qui polluent pratiquement, tu sais, dans tout leur mode, leur cycle de vie.
Au niveau de la production, la production des voitures, c'est aussi...
C'est ça. Et qui implique souvent des métaux, les mêmes qu'on retrouve dans les iPhones, dans les ordi, qui provoquent, qu'on retrouve dans les pays du Sud, dans les pays pauvres. Donc, l'une des réponses des États les plus riches actuellement, c'est de construire des murs, toujours plus de murs, qui servent déjà à contenir des réfugiés climatiques, parce qu'il y en a déjà. On s'en vante pas dans les grands sommets, mais c'est quand même ça. D'ailleurs, il y a un collectif, je pense qu'on en a jamais parlé, qui s'appelle World Without Walls, le WWW. À la base, ça avait été fondé principalement par des groupes mexicains et palestiniens, et ça a grossi au fil du temps. C'est devenu une coalition de plus de 400 groupes à travers le monde. C'est le WWW qui a déclaré depuis 2017, le 9 novembre, comme la journée internationale pour un monde sans mur. Mm. Est-ce que vous le saviez? Moi, je ne savais pas. Puis à la COP26, ils n'en ont pas parlé.
Non.
Il y a 7 pays en particulier parmi les plus riches du monde qui sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, qui dépensent en moyenne 2,3 fois plus sur le contrôle de leurs frontières que sur ce qu'on appelle la finance climatique. On a développé une expression pour ce phénomène-là, le « climate wall », ou en français, le « mur du climat », donc le fait de mettre davantage de ressources sur la militarisation de ces frontières que sur des mesures sur le climat. Je vais vous inviter à lire un rapport du Transnational Institute, le TNI. Le rapport s'appelle « Global Climate Wall ». Il y a beaucoup de chiffres là-dedans. Et tantôt, je vous parlais du « climate wall » qui fait état d'un ratio de 2,3 là, par rapport aux dépenses frontalières, par rapport aux dépenses sur le climat. Ben regardez ça, le Canada, lui, c'est pas mal le cancre en dépensant 15 fois plus sur ses frontières que sur que sur la finance climatique qu'on appelle. Les États-Unis, 11 fois plus, donc ils sont pas en reste non plus. Est-ce que j'ai le temps encore pour une petite minute? Parce que là, on apprend beaucoup de termes, justice climatique, le climate wall, la finance climatique, le technosolutionnisme, l'idée selon laquelle on trouve des solutions technologiques à tout problème, peu importe sa complexité. On le voit dans le climat avec les énergies dites vertes, tout ça.
Les trucs de captage aussi du carbone, ça en relève. Là,
ouais. Exactement. Donc, juste peut-être rapidement aborder l'Union européenne qui a un projet, attention, contraction entre robot et border, le RoBorder, qui est la robotisation, en fait, de ses frontières, donc des drones, des agents frontaliers remplacés par des écrans détecteurs de mensonges qui analysent les expressions faciales, des zeppelins autonomes pour surveiller la mer Égée, détecter les embarcations de migrants, des données spatiales en lien avec l'intelligence artificielle pour prédire l'évolution des routes migratoires. Donc, tout ça est dans le cadre d'un énorme projet « RoBorder ». De l'Union européenne. Donc, je vous le dis, aux apatrides, on apprend plein de nouvelles expressions. Donc, ce qu'on applique autant aux crises climatiques qu'aux crises migratoires, des solutions toujours plus technologiques qui permettent de perpétrer les mêmes systèmes. Donc, conclusion, parce qu'il faut bien en choisir une, là, j'ai tiré un petit peu dans toutes les directions. Je dirais que les changements climatiques, c'est très bon pour les affaires et surtout pour les affaires de l'industrie de la sécurité.
Ouais, effectivement.
Hein, ça fesse comme conclusion.
Ça fesse.
Hein?
Cette semaine, au calendrier militant, on vous propose trois événements, ben, en plus de celui que je vous ai proposé plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire la manif en solidarité avec le peuple Wet'suwet'en. D'abord, pour ceux et celles qui nous écoutent de la région de Québec, ce week-end se tient la 10e édition du Salon du livre des Premières Nations. Au menu, séance de dédicace, ben, comme dans tout Salon du livre, là, table ronde, spectacle, exposition et entretien avec des autrices et des auteurs. Le salon s'ouvre ce soir avec un spectacle et se termine dimanche à 17h avec un bingo littéraire où, en fait, le concept, c'est le boulier qui va décider quels textes vont être lus par le public et les auteurs et autrices Natacha Canapé-Fontaine, Katia Bacon, Charles Bender et Shane Michael. Comme je disais, bon, il y a plein d'autres activités, entre autres l'exposition littéraire et visuelle Le Leg, qui est une expo itinérante, en fait. C'est une œuvre à laquelle plusieurs autrices et auteurs ont contribué avec de courts récits et qui ont été jumelés à un ou une artiste visuelle autochtone. La très grande majorité des activités ont lieu en présentiel. C'est au Morin Center, que je ne connais pas, c'est dans le Vieux-Québec. C'est gratuit. Pas besoin de réserver pour t'sais, le salon du livre comme tel, puis ce qui a lieu dans le cœur du salon, mais il faut réserver pour les spectacles, les entretiens qui ont lieu à la Maison de la littérature ou encore pour les animations familiales qui ont lieu là dans le réseau des bibliothèques du Québec. Vous pouvez aller voir tous les détails sur le site web du salon ou encore sur la page Facebook du Salon du livre des Premières Nations. Côté cinéma, il y a le collectif Regards palestiniens qui organise une série de projections de longs et courts métrages à la Cinémathèque québécoise sous le thème de la libération. Les films présentés sont principalement des documentaires, traitent évidemment de la Palestine, surtout du point de vue des femmes, mais aussi de la Syrie et des peuples autochtones d'ici. L'équipe organisatrice est composée de militants militantes montréalais pour la justice sociale, la défense des droits des personnes migrantes, la solidarité internationale, mais aussi la production et les études cinématographiques. C'est du 29 novembre au 1er décembre. Ça coûte 11 $ ou 10 $ pour les aînés, les étudiants et étudiantes. Pour la programmation complète, là, puis chaque soir, ouais, c'est ça, chaque soirée se décline, Regards palestiniens au pluriel, wordpress.com. Et finalement, il y a l'UPOP qui tient une série de 3 conférences sur l'origine du totalitarisme, l'œuvre phare de Hannah Arendt. Il y en a une qui a déjà eu lieu. La prochaine porte sur le tome 2, c'est-à-dire l'impérialisme et le développement de la pensée raciste. La conférencière, c'est Diane Lamoureux, qui est professeure émérite au département de sciences politiques de l'Université Laval. Elle va aborder plusieurs sujets, dont la colonisation européenne de l'Afrique, le développement du racisme et la racialisation des rapports sociaux, la violence administrative comme négation de la dimension politique et les nationalismes tribaux en Europe. Ça se passe, ouais, gros programme.
Vaste programme, c'est ça que ouais, j'allais dire.
Puis il va rester le 3e tome aussi, mais ça va être en décembre. Donc, ça se passe à la librairie Zone Libre, qui est juste à côté d'ici, sur Sainte-Catherine. C'est le 25 novembre à 18h, et parce que le nombre de places est limité, faut réserver. Donc, c'est le www.upopmontréal.com. Ouh, on t'essoufflait. C'est le temps de clore notre...
Ça achève, ça va pouvoir aller te reposer.
C'est le temps de clore cette émission. Si vous nous écoutez en direct, je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter en balado les émissions que vous avez manquées en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou encore sur notre site internet www.apatridesanonymes.info. Il y a aussi notre page Facebook et voilà. Donc, merci Mathieu et Simon. C'est encore toujours un plaisir de faire cette émission
merci,
avec vous.
Merci, merci Maria pour l'animation.
Ben oui, merci beaucoup.
Avant de terminer, juste un court suivi concernant la Libye, là, parce que on vous en avait parlé il y a environ un mois de la situation qui était très tendue dans le pays en raison d'une vague d'arrestations massives de personnes migrantes. Là, les rafles avaient entraîné une panique dans la population migrante et il y avait donc des milliers de personnes qui s'étaient agglutinées devant le centre de jour du HCR à Tripoli pour demander leur évacuation. Ben là, il y a peut-être un peu de lumière à l'horizon puisque les vols humanitaires qui étaient à l'arrêt depuis un an ont repris. Depuis la reprise, donc, c'est un peu plus de 300 personnes qui ont été rapatriées au Niger et en Gambie. Mais il y a un porte-parole du HCR qui émet un bémol puisque seulement un nombre limité de personnes va pouvoir bénéficier de ces vols de réinstallation ou d'évacuation. Là, il y a actuellement 1000 personnes qui sont considérées comme prioritaires en raison de leur vulnérabilité. Et donc qui sont inscrites sur une liste du HCR, sauf qu'il y a plus de 10 000 personnes qui ont requis l'aide au retour humanitaire volontaire de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, et qui attendent depuis des mois de pouvoir rentrer chez elles. Donc on va quand même là, continuer de suivre l'évolution de la situation puis de vous tenir au courant. On va se laisser en musique avec la pièce du duo montréalais Jerusalem in My Heart. C'est la pièce Abiyat Barak, pardon, qui est tirée de leur tout dernier album qui s'intitule Kalak, qui est sorti en octobre puis qui figure au palmarès anglophone de choc en 12e position. Vous dire aussi qu'il y a un concert de lancement les 26, 27 novembre prochain, donc deux soirs, ça a lieu à la Cinémathèque québécoise parce que, comme je disais, c'est un duo, Jerusalem and My Heart, et une des deux personnes du duo fait des films, en fait, donc est cinéaste, et donc ça sera, c'est toujours accompagné, leur performance est toujours accompagnée de projections vidéo. Alors, on va écouter ça, et on va vous souhaiter une bonne soirée, et vous dire... Dans deux semaines.
Et dans deux semaines, on a une entrevue avec des travailleuses de l'Association des travailleurs et travailleuses d'agences de placement.
Oui.
Donc,
oui.
Une entrevue
live,
exclusive, direct. Live en studio.
Ouais.
Bye-bye.
Bonne soirée.
Bye-bye.